Romains chapitre 13, les versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Au nom de Jésus. Agissez ainsi d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant que quand nous avons cru pour la première fois. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetant donc les œuvres qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qui permettent de lutter dans la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme il le faut à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et de vice, des querelles et de la jalousie. Revêtez-vous de la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ, le Seigneur, et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Amen. L'épître de Paul aux Romains, il faut l'avouer, est l'une des épîtres les plus difficiles. Difficile à lire, mais en même temps, elle contient la colonne vertébrale de toute la pensée paulinienne sur le salut. Et donc, le prédicateur doit faire un énorme effort, assez considérable, pour rendre compréhensible ce que l'auteur transmet dans son message. En lisant et en relisant ce texte, j'ai essayé de chercher comment vulgariser ou faire rendre les choses plus simples dans notre compréhension. Et voici à quoi j'ai pu donner comme image à ce qui est dit dans ce texte. Voilà ce qu'il est dit. Il dit, c'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil. La nuit s'est avancée, le jour s'est approché. Alors, cela m'a fait penser à notre réalité hivernale. On est en hiver. De plus en plus, on entre dans l'hiver. Lorsque nous nous réveillons au matin pour se préparer à aller au travail ou à l'école, il fait encore très sombre. Même si l'horloge indique déjà qu'il est 7 heures du matin. Donc, il ne faut pas se fier à ce qui se passe dehors, mais à ce que l'horloge nous annonce. Même s'il fait encore sombre, il est déjà 7 heures du matin. On n'a pas envie de se lever. On veut encore se coucher, mais en même temps, nos yeux sont rivés vers l'horloge. Et nous sommes tout de même obligés de se lever pour ne pas être en retard au boulot ou à l'école ou à nos rendez-vous. C'est un peu ce que Paul essaie de faire comprendre à son lecteur. Nous vivons les temps derniers, depuis le jour de la résurrection de Jésus. Quand on parle des temps derniers, ce n'est pas 2019 ou 2030. Les temps derniers, c'est à partir du moment où Jésus est ressuscité jusqu'à ce qu'il viendra. On est dans cette période-là. Et donc, il faut être conscient, comme dit le texte tout à l'heure dans Matthieu, à tout moment, il peut revenir. Mais nous ne savons pas quand exactement, ni comment. Nous sommes en quelque sorte sur le qui-vive, se tenir prêt à tout moment, comme les enfants d'Israël qui allaient quitter l'Égypte. Dieu les a ordonnés, soyez prêts, tenez vos bâtons dans la main, la ceinture serrée à la taille, non pas pour la forme, mais pour affronter le désert. Car, savez-vous, pour atténuer un peu la sensation de la faim, une des techniques utilisées, c'est de serrer très fort la taille pour ne pas ressentir la faim. C'était pour ça. Vous allez traverser un désert, il faut être prêt contre la faim. Donc cette idée de se tenir prêt, illustrée ici par des vêtements à mettre, est assez récurrent chez l'apôtre Paul. Ici, par exemple, au verset 12, il dit « Prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. C'est compliqué de comprendre. Quelles sont ces armes de lumière? De quoi s'agirait-il? Alors, regardons dans un autre texte de Paul qui parle de cela, et je vous invite à vous feuilleter votre Bible si vous l'avez dans vos mains. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Ces armes de lumière. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Au nom de Jésus. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêt. Ayez la vérité comme une ceinture serrée autour de votre taille. Prenez sur vous la droiture comme une cuirasse. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix comme des chaussures à vos pieds. Prenez toujours la foi comme un bouclier qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammé du mauvais, et acceptez le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée que vous donne l'Esprit Saint. Amen. Là où je veux en venir, c'est d'attirer votre attention dans le verbe « revêtir ». Revêtir, qui exprime un acte permanent, ou du moins quelque chose qui se renouvelle à chaque fois. Il faut revêtir à chaque fois de ses armes, parce que nous sommes dans un combat acharné. Et cette idée de renouvellement perpétuel est très importante, chers frères et sœurs. Au verset 14, il reformule sa phrase du verset 12, mais cette fois-ci, Paul dit « revêtez le Seigneur ». Revêtir le Seigneur. Et comme je l'ai dit au tout début de cette méditation, Paul, lui, il utilise un langage très complexe. Et pour mieux le comprendre, il faut toujours comparer ce qu'il dit dans un autre passage qu'il faut assimiler. Alors, je vous invite encore à lire pour comprendre ce verset 14, Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, au nom de Jésus. Vous devez donc vous débarrasser de votre vieille nature, qui déterminait la façon dont vous vous conduisez dans le passé, cette vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut que vous soyez complètement renouvelés dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, ou de l'homme nouveau, qui est créé à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Donc, il s'agit de nous faire défaire de l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. En d'autres termes, Paul parle de ce que devrait être la vie d'un baptisé. C'est revêtir le Christ que nous nous engageons à nous renouveler tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut revêtir le Christ. Le jour de notre baptême, nous sommes appelés à combattre l'ennemi, qui n'est autre que même l'homme ancien. Vous savez, dans la liturgie médiévale, surtout au temps de l'Église catholique, même si cette liturgie-là n'a pas été reprise aujourd'hui, il y a une partie que j'aime bien, faire rendre conscient à l'enfant de Dieu qu'à partir de ce jour, ils vont être des soldats du Christ qui vont se battre contre les forces du mal. Et il y avait même dans la liturgie une partie d'exorcisme avant le baptême. C'était une liturgie qui s'est fait passer à l'époque. C'était pour conscientiser que le jour de ton baptême, tu dois être armé tous les jours contre le mal qui va te guetter dans ta vie. C'est une grave erreur de croire qu'une fois baptisés, nous nous croyons que nous ne péchons plus, ni ne tombons plus dans les péchés. Ça, c'est faux. Le baptême n'est pas un objectif. Le baptême n'est pas un point d'arrivée. Le baptême, c'est un perpétuel départ. Tous les jours, tu dois reprendre un nouveau départ dans le Christ. Mais grâce à ce baptême, nous pourrions espérer le pardon à chaque fois. En marchant, nous pouvons trébucher, nous pouvons offenser le Seigneur, mais grâce à ce baptême, je peux espérer être pardonné quand je reviens à ses pieds. Nous replongeons tous les jours dans notre eau de baptême, disait Martin Luther. Nous sommes invités à replonger dans nos eaux de baptême tous les jours. Que tu la fasses dans la Meuse, ton baptême, ou dans la mer, ou avec quelques gouttes, seule la promesse du pardon qui accorde le pardon à ceux qui ont été adoptés. Ceux qui ont été adoptés. Pour faire simple, celui qui est baptisé, non seulement il a la joie de revêtir le Christ, mais en même temps il peut y revenir dans son eau de baptême pour se laver à tout moment. Ce sacrement de baptême est à la fois la grande porte d'entrée dans le royaume de Dieu, mais en même temps, c'est un lieu de ressourcement, un lieu de sanctification. Il est très important de souligner dans notre péricope d'aujourd'hui, le fait est que Paul a mis en lien le baptême et les armes de la lumière. Regardez bien ce lien qu'il fait, le baptême et les armes de la lumière, ce qui signifie que ce baptême que nous avons reçu lors de notre jour de baptême, le baptême, c'est notre justification qui est tout le temps mise sous pression, tous les jours, tous les jours. Le diable va toujours nous faire douter que nous avons été justifiés. Es-tu vraiment justifié? Pourtant, tu viens de mentir deux minutes passées. Es-tu vraiment enfant de Dieu? Pourtant, tu as dit des gros mots hier. Il peut vite se salir cette robe que nous avons reçue lors de notre baptême. Alors nous sommes appelés à être vigilants pour qu'il soit toujours propre. Et si dans le cas contraire, et ça peut arriver et ça arrive, le Christ a encore une solution. Viens, je t'appelle à nettoyer cette robe que je t'ai donnée. Et il le dit bien dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 13. Alors l'un des anciens me demanda, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Voilà la question que Jean a posée dans sa vision. Et il me répondit, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir la robe, il ne suffit pas d'être baptisé, il ne suffit pas d'être enfant de Dieu. Nous sommes toujours appelés à revenir au pied du Christ pour laver cette robe. Comme nous le faisons à chaque fois chez nous aussi, nous envoyons nos linges sales à la lessive, c'est la même chose. Alors, il ne suffit pas d'avoir cette justification, mais il faut aussi la laver tous les jours. Et cette référence de l'Apocalypse rime bien avec ce que Paul nous dit dans ce texte. Ça parle d'un combat, ils viennent d'une grande détresse. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, il doit porter sa croix tous les jours. Ce n'est pas tous les deux semaines ou tous les dimanches, tous les jours. C'est quoi cette croix? Refuser l'homme ancien. Cet homme ancien qui est toujours collé à nous, il est toujours là. Et ça, c'est un combat. Se battre contre soi-même. L'ennemi, ce n'est pas le diable. L'ennemi, ce n'est pas le monde, l'ennemi, c'est moi. L'homme ancien qui est en moi, il n'est pas mort. Il est là, il attend son moment et il peut ressurgir à tout moment. C'est ça le combat de la foi, dit Paul. Alors, quelle est l'utilité de ce combat? Notre vie terrestre n'est que le reflet de notre vie céleste. Je le dis toujours, la vie d'un enfant de Dieu, c'est le reflet de sa vie céleste ou de notre vie future. Et dans la construction de phrases de Paul au verset 13, il dit « Conduisons-nous honnêtement » et la suite « Comme il convient à la lumière du jour ». Cela nous montre clairement que puisque nous appartenons déjà, et je souligne ce mot « déjà », nous appartenons déjà à cette lumière de grâce grâce à notre baptême, alors conduisons-nous en fonction de tel. En d'autres termes, la vie d'un baptisé, ce n'est qu'un reflet de sa future vie plus tard. Et soyons honnêtes, ce n'est qu'un reflet. Et un reflet, nous savons tous, n'est pas l'image exacte. C'est ce que dit aussi l'apôtre Jean dans son épître, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. « Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Ça, il ne faut pas en douter. Tu es déjà enfant de Dieu. Mais ce que nous deviendrons au futur n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes toujours en devenir. Et voici une formule que je peux vous donner. Nous sommes légitimement enfants de Dieu, puisque ton nom est écrit dans le livre de vie, le jour de ton baptême. Nous sommes légitimement enfants de Dieu, mais nous sommes aussi appelés à l'être légalement. Nous sommes légitimement enfants de Dieu, mais tu es toujours appelé tous les jours à l'être légalement. Vous savez, quand on adopte un enfant, parfois il y a des gens qui adoptent des enfants qui sont déjà presque adultes, qui viennent d'un autre pays, les parents sont européens, l'enfant par exemple est malgache ou asiatique. Cet enfant-là doit apprendre toutes les réalités de ses parents, dans le pays d'où il vient, il ne connaît pas. Le climat, il faut qu'il s'acclimate. Il y a une phase d'intégration. La nourriture, il se peut qu'il va avoir mal au ventre. Ce sont les phases d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas encore enfant de ses parents-là. Si, il peut le dire père, mère, tout en étant différent extérieurement. Et c'est ça notre situation devant Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous devons apprendre ce que serait notre vie là-haut. Donc ici-bas, nous sommes en train de nous exercer pour notre vie future. Si on te donne la parole de Dieu, ce n'est pas pour t'opprimer, mais pour que tu t'entraînes. Quelle sera ta vie là-haut? Les efforts que nous fournissons ici-bas n'ont aucun but de nous ouvrir les portes du ciel. Loin de là. Nos efforts que nous faisons tous les jours ne nous justifient en aucun cas. Ces efforts, en quelque sorte, ce sont que des exercices de la vie céleste qui nous attendent. C'est une sorte d'anticipation de la vie dans l'au-delà. On anticipe le royaume de Dieu ici-bas. C'est ce que nous disons dans notre prière, notre Père. Que ton règne vienne. C'est ainsi qu'il faut comprendre les paroles d'exhortation à une vie sainte. Ce ne sont pas des paroles de condition d'accès à la vie éternelle. C'est plutôt une anticipation à la vie éternelle. Par exemple, un texte que nous aimons tous, Lévitique chapitre 20, verset 26. « Soyez saints, mis à part pour moi, car je suis saint. Moi, le Seigneur, je vous ai séparés des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Puisque Dieu est saint, alors nous devons aussi l'être. » C'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Ce n'est pas pour être enfant de Dieu, il faut être saint. Parce que tu es enfant de Dieu, tu devrais être saint. Et deuxième exemple, dans Jean chapitre 13, verset 35, « Si vous avez de l'amour les uns et les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Ce n'est pas pour Dieu que tu aimes le prochain. Dieu n'en a pas besoin. C'est pour que les autres sachent qui tu es, d'où tu viens. Donc l'amour fraternel, ici, c'est le reflet de la vie céleste. Alors c'est à partir de là que des hommes et des femmes vont nous dire aussi « Nous aimerions connaître ce Dieu que nous voyons à travers toi. Nous aimerions le connaître. Nous sommes juste comme des miroirs qui ne font que repartager la lumière de celui qui nous a illuminés. Sois le reflet du royaume de Dieu. Amen.